Vous écoutez France Culture.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Hey, you know what? Les nouveaux chemins sont tous les jours préparés, même en vacances, par Marianne Chassor, Jean-Daniel Loup, Antoine Ravon et Mathilde Wagman. À la lecture des textes aujourd'hui, Mathias Mine. À la réalisation, Olivier Guérin. Avec aujourd'hui à la prise de son, Philippe Palares. Bienvenue sur les chemins du vendredi, où chaque semaine nous donnons la parole à ceux qui réconcilient philosophie et actualité sous toutes ses formes. Table ronde autour d'ouvrages de philosophie qui viennent de paraître, masterclass avec un philosophe au parcours singulier, regard croisé de philosophes sur un enjeu politique, éthique ou esthétique contemporain, mais aussi séminaires et festivals, autant de façons de tendre le micro à la philosophie en train de se faire. Et aujourd'hui, place à l'actualité éditoriale à l'occasion de la parution chez Gallimard du 5e volume des œuvres complètes de Simone Veil. Celle qu'Alain surnommait la Martienne disparaissait il y a tout juste 70 ans, en 1943. Elle nous a laissé une œuvre inclassable, sans cesse tendue entre action dans ce monde et contemplation de la lumière surnaturelle, entre philosophie du travail et platonisme teinté de christianisme. Mais il y a tout juste 70 ans, alors qu'elle était résistante à Londres, elle rédigeait surtout ce qui sera une œuvre qui ne ressemble à aucun autre de ses textes et qui pourtant appelle vers toute sa pensée le prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humain, plus connue sous le titre de l'Enracinement. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir le philosophe Robert Chenavier, président de l'Association pour l'étude de la pensée de Simone Veil, qui a établi, présenté et annoté avec Patrice Roland ce volume qui rassemble ses écrits de New York et Londres, parmi lesquels donc l'Enracinement. Bonjour Robert Chenavier.
Bonjour. J'ai été le voir à Marseille et je sais que nous avons passé la nuit dans sa chambre à parler, et dans un état d'illumination que je n'ai plus retrouvé de ma vie. Et puis aux petites heures, on s'est séparés. Et elle m'a donné une serviette qui était bourrée de ses manuscrits. Elle a dit « Emportez-moi ça ». Et puis elle m'a écrit une lettre dans laquelle elle me disait, je cite, enfin, à peu près substantiellement, « Je vous confie ces manuscrits, je ne sais pas ce qu'ils valent, n'est-ce pas ? Ils ne valent peut-être pas plus que la fumée des cigarettes que j'ai fumée pendant que je les écrivais, parce qu'elle fumait beaucoup. » Et puis, après la guerre, j'ai appris qu'elle était morte en 1943. Et alors, j'ai parlé à Gabriel Marcel, qui dirigeait une collection « Céplon ». Je l'ai publié bien volontiers, mais parce que c'était un livre de grande valeur, mais en espérant aucun succès. Et ça a eu un très gros succès pour un livre philosophique, au moins 30 000 exemplaires. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à être connue dans les années 47. Et puis après, alors, évidemment, Camus, tout le monde est venu, on a publié ses œuvres complètes, et ainsi de suite. Mais c'était le début. Le succès, en général, un succès immédiat pour une œuvre de cette valeur, bien tient plutôt au côté anecdotique de l'œuvre, au côté pittoresque du personnage, qu'à la valeur du livre. On montrait l'ouvrière d'usine, la milicienne est sur le front de dragon, elle était allée se battre, non, elle ne s'est jamais battue. Et ainsi de suite, alors ça faisait pittoresque. Et ça a fait un succès de curiosité, si on peut dire, et d'anecdote. Mais la vraie Simone Veil, peu à peu, ce succès a disparu. Mais de plus en plus, elle a pénétré dans d'autres pays. Et ce qui est extrêmement touchant, elle a sidéré des hommes de toutes les classes sociales et de tous les niveaux de culture.
L'enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine. C'est un des plus difficiles à définir. Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l'existence d'une collectivité qui conserve vivant certains trésors du passé et certains pressentiments d'avenir. Participation naturelle, c'est-à-dire amenée automatiquement par le lieu, la naissance, la profession, l'entourage. Chaque être humain a besoin d'avoir de multiples racines. Il a besoin de recevoir la presque totalité de sa vie morale, intellectuelle, spirituelle, par l'intermédiaire des milieux dont il fait naturellement partie. Les échanges d'influence entre milieux très différents ne sont pas moins indispensables que l'enracinement dans l'entourage naturel. Mais un milieu déterminé doit recevoir une influence extérieure, non pas comme un apport, mais comme un stimulant qui rende sa vie propre plus intense. Il y a déracinement toutes les fois qu'il y a conquête militaire, et en ce sens, la conquête est presque toujours un mal. Le déracinement est au minimum quand les conquérants sont des migrateurs qui s'installent dans le pays conquis, se mélangent à la population et prennent racine eux-mêmes. Même sans conquête militaire, le pouvoir de l'argent et la domination économique peuvent imposer une influence étrangère au point de provoquer la maladie du déracinement.
Robert Chenavier, on vient d'entendre tout d'abord la voix de Gustave Thibon, philosophe et ami de Simone Veil, qu'il a rencontré en 1941 alors qu'elle voulait travailler comme ouvrière agricole et grâce à qui, on l'entend dans l'extrait, ses manuscrits ont pu être publiés. Puis on a entendu un extrait de L'Enracinement, un des derniers textes que Simone Veil a écrit, donc en 1943, comme je l'ai dit au départ, qui paraît donc dans ce cinquième volume des œuvres complètes. Et ce qu'on entend dans ces deux extraits, c'est véritablement que la pensée de Simone Veil dépasse le cercle philosophique ou même le cadre de l'anecdote pour s'adresser à tout le monde. Dans le texte de L'Enracinement, elle parle du besoin le plus méconnu, le plus important de l'âme humaine. Et de la même manière, ce qu'on entend dans l'extrait de Gustave Thibon, c'est de dire que finalement, elle a parlé à tous les hommes.
C'est ça. Alors Gustave Thibon fait référence au cahier. Simone Veil lui a remis 11 de ses cahiers avant son départ de Marseille, que Thibon a publié sous le titre qui n'est pas de Simone Veil, La pesanteur et la grâce, qui est donc un montage de textes choisis, établis, découpés par Gustave Thibon. Donc j'allais dire que ce n'est pas une édition scientifique de l'œuvre, mais il est certain que dans la réception de l'œuvre, ça a beaucoup compté. Beaucoup de gens ont connu Simone Veil par La pesanteur et la grâce. L'enracinement, c'est une sorte de testament, évidemment, de Simone Veil. Je pense qu'elle savait, en arrivant à Londres, peut-être qu'il ne lui restait plus si longtemps à vivre. Je crois qu'elle en avait le pressentiment. Et il a fallu, finalement, quelques mois, qu'elle consigne, en quelque sorte, comme elle le dit elle-même, ce qu'elle avait dans le ventre, n'est-ce pas ? Et qu'elle écrive ce qu'elle appelle son second grand œuvre. Le premier grand œuvre étant le texte de 1934 auquel elle tenait beaucoup, qui s'appelle « Réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale ». Et dans le texte de L'Enracinement qui a été lu, ce qui me paraît en effet très intéressant, c'est l'idée que tout de suite l'enracinement est défini comme un ensemble de milieux. C'est une participation réelle et active à l'existence d'une collectivité qui conserve des éléments du passé, mais aussi qui ouvre sur un avenir. Donc d'emblée, j'allais dire que la seule simple lecture de ce texte empêche de considérer que l'enracinement est simplement un texte rétrograde d'une philosophe attachée au passé. Simone Veil n'est pas Barrès, n'est-ce pas ?
C'est souvent une lecture qu'on a eue de Simone Veil, notamment oui. de l'enracinement, de dire qu'elle avait une pensée antimoderne. Oui. Il faut dire en fait que l'enracinement, donc là elle définit ce qu'est l'enracinement, mais en fait elle part d'une critique du régime actuel. Il faut le dire aussi qu'elle a écrit dans le contexte de la guerre. Il fallait qu'elle réfléchisse aux conditions de création d'un pouvoir politique, d'une communauté politique qui soit légitime. Et donc dans ce cadre-là, elle en vient à dénoncer la situation actuelle qui serait propice au déracinement. Alors comment on peut définir le déracinement ?
Oui, le déracinement, c'est le fait d'être arraché de toutes ses racines. Donc pas seulement d'une nation, mais de tous les éléments culturels qui composent l'enracinement. Puisque ça me paraît très important de dire que l'enracinement, c'est pas l'enracinement dans la terre. Elle n'est pas Thibon chez Thibon. Il y a une idée d'enracinement dans la terre. Le travail, c'est avant tout le travail de la terre. Elle est là. Elle a en effet travaillé en usine. Et ce qui compte pour elle, c'est l'expérience de différents milieux, de divers milieux. La profession, aussi bien que le syndicat, aussi bien que l'appartenance à une région, etc. Donc le déracinement, c'est la perte, c'est l'éclatement de toute signification qui rend l'individu disponible précisément pour toutes les formes de pensée totalitaire, pour toutes les idéologies, de l'impérialisme ouvrier au fascisme. Et c'est pour cela, en effet, comme vous l'avez dit, que la période de la guerre a été peut-être pour elle le moment propice, j'allais dire providentiel, c'est pas le mot, parlant d'une période de guerre, enfin c'est le moment propice pour refonder, dans la mesure où dans les années 30, elle a bien senti que, comme elle le disait, l'axe du système social est en train de se retourner et qu'elle voyait l'évolution du capitalisme aller vers la destruction plutôt que l'augmentation, le développement des forces productives. Et au moment de la guerre, elle se rend très bien compte que c'est l'axe de... Elle a l'impression que c'est l'axe de la civilisation qui est en train de basculer, et c'est dans... C'est une chose très importante chez elle, c'est que d'une certaine façon, elle ne pense bien que dans les situations de crise extrême. Elle dit dans les cahiers, tu ne pourrais pas être né à une meilleure époque que celle-ci, où tout est perdu, on va dire. Alors, si tout est perdu, eh bien non, parce que justement, c'est dans ce genre de circonstances, dans cette brèche, comme dira un peu Hannah Arendt plus tard dans la crise de la culture, que la pensée peut espérer toucher justement le fondement des choses. Et la guerre, c'est pas seulement une crise politique, n'est-ce pas? Et puis la défaite, c'est pas le mot. La faiblesse montrée par les démocraties face, par exemple, au nazisme, c'est quelque chose qui oblige à réfléchir sur les fondements même de la politique et pas seulement sur des procédures.
Ce qui est intéressant avec l'enracinement, c'est vraiment effectivement que Simone Veil va dépasser ce contexte-là dans le temps, mais aussi dans l'espace d'une certaine manière, parce qu'il y a quand même un regard, une attention qui est tournée vers ce qu'elle appelle le surnaturel, la lumière. Alors effectivement, elle n'est peut-être pas ancrée dans la terre par le terme d'enracinement. Il ne faut peut-être pas y voir complètement l'image de la terre, mais quand même, il y a cette idée d'avoir les pieds sur terre, l'attention à la fois tournée vers la réalité du monde ici-bas et en même temps le regard tout le temps tourné vers la lumière. Il y a une forme de tension dans l'œuvre de Simone Veil. Est-ce qu'on pourrait dire que cette tension-là aussi se retrouve dans l'enracinement ?
Oui, je crois que cette tension se retrouve dans l'enracinement. On pourrait croire que chez elle, ce qu'elle appelle le franchissement d'un seuil spirituel, on ne peut pas parler de conversion, elle récuse le mot conversion, enfin disons le franchissement d'un seuil spirituel, on pourrait croire que cela fait d'elle une mystique qui va se désintéresser des problèmes du monde.
Il faut rappeler qu'en fait, Simone Veil, au départ, effectivement, a été professeure de philosophie, oui. A travaillé en usine, a milité avec les ouvriers, et qu'en 1937-38, elle a vécu une expérience mystique, et qu'à partir de ce moment-là, son œuvre... Des interprétations disent qu'il y a deux moments dans son œuvre, mais finalement, il y a une forme de continuité entre cette première période et cette seconde période.
Oui, il y a une continuité dans la mesure où elle-même emploie cette expression dans un brouillon de lettres qu'elle n'avait pas envoyé d'ailleurs, mais où elle dit « Je crois avoir à plusieurs reprises dans ma vie franchi un seuil, mais je ne crois pas avoir changé de direction. » C'est-à-dire que quand elle définit ce qu'elle a voulu, ce qu'elle a attendu toute sa vie, elle dit toujours c'est l'attente de la vérité. L'attente de la vérité, je crois que ce soit dans la contemplation, comme elle dit, des problèmes sociaux, ou que ce soit dans la contemplation mystique, il s'agit d'atteindre la vérité, il s'agit d'atteindre des formes de réalité, précisément sur différents niveaux. La réalité n'est pas une chez elle, n'est-ce pas ? Il y a une réalité naturelle, il y a une réalité sociale, il y aura, à partir de 37-38, en effet, une réalité surnaturelle. Et dans l'enracinement, au fond, elle voudrait réfléchir sur l'art politique comme un art de composer sur plusieurs niveaux. Donc il y a à la fois l'inspiration, qui est celle du surnaturel, pour prendre l'expression que vous employez, et puis il y a les choses beaucoup plus prosaïques qui relèvent du social, de l'économie, de la politique.
En quoi consiste cette vraie philosophie ? Elle consiste bien moins, selon Simone Veil, en des raisonnements abstraits qu'en une connaissance concrète de la nature humaine. En une description exacte des traits et des exigences contradictoires de notre pensée. Celui qui décrit sincèrement la pensée humaine y découvre en effet des contradictions, et des contradictions non pas accidentelles, mais essentielles. Les philosophes médiocres s'efforcent d'effacer ces contradictions et pensent y réussir. Les grands philosophes reconnaissent qu'elles sont irréductibles, et c'est pourquoi ils sont amenés à supposer l'existence d'un domaine transcendant qui est le seul lieu où la contradiction pourrait être surmontée.
La notion d'obligation prime celle de droit, qui lui est subordonnée et relative. Un droit n'est pas efficace par lui-même, mais seulement par l'obligation à laquelle il correspond. La notion de droit étant d'ordre objectif n'est pas séparable de celle d'existence et de réalité. Elle apparaît quand l'obligation descend dans le domaine des faits. Par suite, elle renferme toujours, dans une certaine mesure, la considération des états de fait et des situations particulières. Les droits apparaissent toujours comme liés à certaines conditions. L'obligation seule peut être inconditionnée. Elle se place dans un domaine qui est au-dessus de toute condition parce qu'il est au-dessus de ce monde.
« Simone Veil nous rappelle ce qu'est la vraie philosophie. Quand on demande ce qu'elle signifie pour la pensée de notre temps, on peut répondre qu'elle signifie non seulement la redécouverte de l'union nécessaire entre la doctrine et la manière de vivre, entre la théorie et les actes, mais aussi la redécouverte du fondement religieux ou mystique de la philosophie. La restauration de l'unité entre philosophie et spiritualité, ou si l'on veut, entre hellénisme et christianisme.
Robert Chenavier, on vient d'entendre Simone Pettremont, une amie de Simone Veil et philosophe également. J'ai lu un texte, le tout début de l'Enracinement, où elle explique que la notion d'obligation doit primer celle de droit. Et alors, il y a deux choses dans ces deux extraits. C'est que, d'une part, effectivement, l'obligation est une manière de penser l'ouverture à la transcendance. Et c'est ce qu'explique Simone Pettremont, à savoir que la philosophie de Simone Veil a tenté, non pas de résoudre les contradictions propres à la nature humaine, mais finalement a tenté de tendre vers une transcendance. Et on voit aussi, du coup, le lien entre l'hellénisme et le christianisme de Simone Veil, avec cette idée, justement, d'obligation inconditionnée, alors que le droit, qui est le mode juridique auquel on fait appel dans nos démocraties, ne relève que de l'échange et ne porte pas en lui une dimension absolue.
C'est ça, c'est ce qui surprend probablement le lecteur de l'Enracinement, c'est que Simone Veil semble s'attaquer au fondement même de ce que nous considérons comme une société moderne issue de la Révolution française, pour ce qui est de la France, c'est-à-dire mettre d'abord la question des droits au fondement. Or, et c'est là qu'elle opère un renversement étonnant et qui peut être mal compris, c'est qu'elle dit, mais la notion de droit, en effet, est conditionnée par des échanges, par des rapports de force. Elle dit finalement, le droit, c'est un peu cruel de dire cela, mais elle dit, le droit est juste un peu au-dessus de la force brutale, et d'ailleurs, sans la force, il n'est rien. Donc, il y a toujours un élément d'échange, un élément de donnant-donnant dans le droit. Et qu'il n'y a qu'une chose qui est inconditionnée, c'est l'obligation. Un homme serait-il seul sur Terre? Elle dit, il aurait des obligations. Donc, en fait, elle considère que la question du droit, le droit n'est pas le droit, la démocratie, toutes les libertés accordées par la République, la Révolution, etc., ne sont sûrement pas à oublier, encore moins à supprimer, mais tout cela fait partie de ce qu'elle appelle la région moyenne qui doit être fondée sur quelque chose qui est supérieur. Et ce quelque chose de supérieur vient en effet d'un séjour, comme elle le dit, qui n'est pas de ce monde. Alors, est-ce que c'est chrétien? Ça, c'est très platonicien. Je veux dire, si Simone Veil est une philosophe chrétienne, par exemple, encore faudrait-il savoir de quel christianisme il s'agit. Elle a un christianisme bien particulier, je crois. Mais si on est gêné de faire référence au christianisme, on peut penser à Platon et dire finalement, le bien, c'est c'est cette idée qui ne peut pas être simplement extraite de la nécessité de l'histoire, qui ne peut pas être extraite des lois de la nature, qui ne peut pas être extraite de ce séjour du monde ici-bas. Dans ce séjour, nous sommes pris dans des forces et dans des lois. Et nécessairement, il y a un élément qui est le bien, dont elle dit qu'il est hors de ce monde, mais en même temps, elle dit qu'il est une réalité, puisque ce bien, c'est celui auquel aspirent tous les hommes. C'est-à-dire que le bien est une réalité dans la mesure où tout homme aspire à ce qu'on lui fasse du bien. Et c'est ce qui nous fait obligation, finalement.
Mais qu'apporte l'idée de transcendance véritablement? Pourquoi a-t-on besoin, pour fonder une communauté politique, pour penser à un régime politique ici-bas, en quoi a-t-on besoin de faire appel à une lumière surnaturelle, à la transcendance?
Bon, je crois qu'elle a eu un itinéraire dans lequel la pensée de Marx et le marxisme ont évidemment beaucoup compté et ont eu beaucoup de poids. Le principal reproche qu'elle fait à Marx, c'est précisément d'avoir voulu que le bien ou le meilleur sorte du développement de la nécessité. Bon, le développement des forces productives va amener nécessairement quelque chose comme le communisme, mais en même temps, le communisme, ça sera le meilleur. Or, elle dit finalement, l'histoire ne produit pas le meilleur. L'histoire est simplement le terrain où s'affrontent des forces, et où s'affrontent des lois. Donc, si on veut espérer que quelque chose comme le meilleur se réalise, ce n'est pas dans la nécessité immanente qu'on va le trouver. C'est bien ailleurs. Alors, cet ailleurs, si elle le définit comme un séjour extérieur, c'est qu'elle voit dans les valeurs, dans le bien, dans le beau et dans le juste, quelque chose qui peut descendre en ce monde, à condition qu'on fasse ce qu'il faut en ce monde, qu'on crée les conditions pour la descente de ce bien, de ce juste, de ce beau, de ces valeurs, mais en tout cas qu'on ne peut pas trouver dans ce monde ici-bas. Mais pour elle, il n'y a pas une réalité qui serait le monde d'ici-bas et puis une irréalité. Elle dit le bien est un néant, c'est quelque chose de parfaitement irréel, mais au cœur des hommes, c'est une réalité. Enlevons-leur cela et on enlève aussi toute notre humanité.
Finalement, c'est ce que dit Simone Pétremont aussi dans l'extrait, c'est-à-dire qu'il y a une continuité chez Simone Veil entre l'action et la contemplation qui parcourt finalement toute son œuvre, alors qu'on a voulu justement faire diviser son œuvre en deux parties, une partie par rapport à la condition ouvrière, du concret, et une partie sur l'abstrait, alors qu'en fait finalement il y a une continuité qui parcourt toute son œuvre et qui se retrouve en particulier dans l'enracinement.
Et qui se retrouve dans l'enracinement. Parce que dans ses premiers écrits philosophiques, elle dit il faut être matérialiste. Mais en même temps, elle dit il n'y a pas. Le matérialisme sans l'esprit, ce n'est rien. Sans l'esprit qui connaît, ce n'est rien. Donc on passera de la notion d'esprit à quelque chose de moins anthropologique et qui est le surnaturel. Mais au fond, c'est la même chose. Le fait qu'elle franchisse un seuil spirituel n'enlève pas tout son mérite au matérialisme. Elle dit quand on analyse les forces dans ce monde et quand on analyse le social, quand on analyse le politique, quand on analyse l'histoire, il faut être matérialiste et il faut même l'être de façon très cynique. Elle aime beaucoup Machiavel, ce qui pourrait paraître curieux, mais elle aime énormément Machiavel parce qu'elle dit, quand on étudie les forces qui sont en jeu dans l'histoire et dans les rapports humains, eh bien, il faut être matérialiste jusqu'au bout, il faut l'être complètement. Donc, d'une certaine manière, c'est ça qui est très curieux chez elle, c'est que c'est le développement d'une dimension spirituelle qui va donner aussi toute sa place à une analyse matérialiste. Ce qui fait que les lecteurs effrayés, peut-être au début par la référence au surnaturel, verront que cette référence ne l'emmène pas dans un séjour éthéré et loin du monde, mais au contraire, ramène à des analyses très, très concrètes et même, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, parfois extrêmement cyniques.
Alors, vous avez cité Machiavel, mais on peut aussi penser à Rousseau, un autre penseur politique qui, dans Le Contrat social, essaye de tenter en fait, de comprendre comment on peut produire ce sentiment d'obligation dans le cœur de chacun des membres de la communauté afin qu'il y ait un lien social. Et finalement, de la même manière que Rousseau va penser la religion civile, on peut dire que Simone Veil va tenter de penser un pouvoir qu'on pourrait dire spirituel.
Oui, elle doit beaucoup à Rousseau. Elle dit dans une lettre, je crois que c'est à Souvarine, Rousseau est un ami très cher. Et c'est vrai que dans l'enracinement, il y a une inspiration rousseauiste dans l'importance qu'elle donne à la notion de légitimité, dont vous avez parlé tout à l'heure. La question politique chez Rousseau, c'est ça. Quel est le fondement d'un pouvoir légitime? Et c'est cela aussi dans l'enracinement, la légitimité. Alors la légitimité n'est pas la valeur supérieure. Au-dessus, il y a ce qu'elle appelle la justice. Mais en termes politiques, on va parler de légitimité. Et il est certain que la conception qu'on peut se faire d'une politique, étant donné ce qu'on a connu dans l'histoire, étant donné, elle fait quand même une analyse dans l'enracinement des faiblesses de la Troisième République, des faiblesses de la démocratie, de tout ce qui est issu de la Révolution française, pas seulement de la Révolution
française. Elle fait même ce que vous appelez une contre-histoire.
Elle fait une contre-histoire. Elle dit finalement, cette contre-histoire nous révèle quoi ? Qu'il y a dans le passé des instants privilégiés, elle les trouve en Grèce, elle les trouve aussi dans la civilisation occitanienne, etc., qui nous disent qu'il faut qu'il y ait quelque chose de spirituel pour inspirer une politique. Et en effet, elle ne parle pas de religion civile comme Rousseau, mais on peut dire que le secret d'une politique tel qu'il est défini par l'enracinement, c'est qu'il y ait une certaine imprégnation spirituelle d'un peuple. Et elle le pensera un moment. Elle reviendra là-dessus juste avant sa mort, mais elle pensera un moment que le mouvement français de Londres est bien placé justement pour exercer une sorte de pouvoir spirituel qui permettrait de renverser un petit peu la conception de la politique fondée sur la prise du pouvoir, la conservation du pouvoir, la lutte entre les partis politiques, et que on pourrait peut-être, d'une façon rousseauiste justement, si on s'adressait dans chaque individu à ce qui veut, à ce qui souhaite, à ce qui désire qu'on lui fasse du bien et non du mal, elle dit, si on arrivait à faire taire chez les individus toutes les passions nées de ces conflits entre partis, entre brigues, comme disait Rousseau, ou ces conflits d'intérêts, on pourrait peut-être capter, déceler chez les individus quelque chose qui permettrait de mieux les faire vivre ensemble. Bon, alors, un pouvoir spirituel, ça serait ça, déjà. Comment peut-on recevoir, comment peut-on entendre, écouter les pensées sourdes, les besoins de l'âme, comme elle dit, les besoins sourds chez les individus.
Parmi lesquels l'enracinement.
Parmi lesquels l'enracinement. Et que la conception vulgaire, on va dire, de la politique, les conflits de partis, etc., éteignent ou recouvrent. Donc, comment faire parler ceux qui ne parlent pas? Elle a toujours été sensible, dès sa jeunesse, au fait que, elle l'a constaté en usine, les malheureux sont muets. Et que quand ils parlent de leur malheur, ils en parlent à tort. Un ouvrier va demander une augmentation, mais elle dit...
Il va penser encore en termes de droit.
Penser en termes de droit. On ne peut pas acheter une âme plus chère, n'est-ce pas? Une âme, ça, et les besoins de l'âme ont d'autres valeurs que des valeurs matérielles. Ça ne veut pas dire qu'elle les néglige, les valeurs matérielles. Enfin, elles ont une autre valeur. Donc, en fait, comment faire pour que ceux qui ne s'expriment pas dans les... ceux qui ne s'est pas exprimé dans les conditions de la vie politique, par exemple l'avant-guerre, puissent s'exprimer? Pour cela, il faut à la fois que les malheureux et les gens muets puissent parler, mais il faut aussi que ceux qui peuvent parler puissent parler, j'allais dire, à bon escient de cette réalité de ce qui se passe dans l'âme des individus, au lieu de plaquer un discours ou des théories, finalement, toutes faites ou abstraites.
On peut entendre par liberté autre chose que la possibilité d'obtenir sans effort ce qui plaît. Il existe une conception bien différente de la liberté, une conception héroïque qui est celle de la sagesse commune. La liberté véritable ne se définit pas par un rapport entre le désir et la satisfaction, mais par un rapport entre la pensée et l'action. Serait tout à fait libre l'homme dont les actions procéderaient d'un jugement préalable concernant la fin qu'il se propose et l'enchaînement des moyens propres à amener cette fin. Peu importe que les actions en elles-mêmes soient aisées ou douloureuses, et peu importe même qu'elles soient couronnées de succès, la douleur et l'échec peuvent rendre l'homme malheureux, mais ne peuvent pas l'humilier, aussi longtemps que c'est lui-même qui dispose de sa propre faculté d'agir. Et disposer de ses propres actions ne signifie nullement agir arbitrairement. Les actions arbitraires ne procèdent d'aucun jugement et ne peuvent à proprement parler être appelées libres. Tout jugement porte sur une situation objective et par suite sur un tissu de nécessité. Quant à la liberté complète, on peut en trouver un modèle abstrait dans un problème d'arithmétique ou de géométrie bien résolu, car dans un problème, tous les éléments de la solution sont donnés et l'homme ne peut attendre des secours que de son propre jugement, seul capable d'établir entre ces éléments le rapport qui constitue par lui-même la solution cherchée.
Vous écoutez Les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Nous parlons aujourd'hui de Simone Veil, du cinquième volume des œuvres complètes de Simone Veil qui vient de paraître aux éditions Gallimard, en compagnie du philosophe Robert Chenavier qui a présenté, établi et annoté cette édition. Robert Chenavier, on vient d'entendre, lu par Mathias Mine, un extrait de ce que Simone Veil considère sa première grande œuvre, Avant l'enracinement, donc les réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale, qui date de 1934. Et dans cet extrait, elle définit ce qu'est la liberté selon elle, à savoir non pas un rapport entre le désir et la satisfaction, mais un rapport entre la pensée et l'action. Et on retrouve tout à fait ce que vous venez de dire juste avant par rapport au droit et à l'obligation, à savoir qu'il ne s'agit pas en fait d'être compensé, qu'un malheur, une souffrance n'est pas simplement compensé, un désir n'est pas simplement satisfait, mais que véritablement il faut donner les conditions pour que les hommes soient libres et puissent penser par eux-mêmes. Et c'est ce qu'on trouve déjà dans ce texte qui date de 1934.
Oui, c'est ce qu'on trouve dans ce texte de 1934. Là encore, il est probable, parce que ça joue un grand rôle dans les réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale, qu'elle avait en tête la conception que se faisait Marx du rapport entre liberté et nécessité, c'est-à-dire, du moins chez un certain Marx, la conception d'une liberté qui serait au-delà de la nécessité. Par exemple, non seulement se libérer dans le travail, mais s'émanciper du travail. Bon, il y a des passages de Marx où il dit le règne de la liberté commence au-delà de celui de la nécessité. Et Simone Weil a toujours considéré que cette conception de la liberté était illusoire et que la liberté n'existe que dans sa relation à la nécessité. Un homme serait parfaitement libre, au fond, s'il pouvait disposer de tous les éléments de son existence et si son esprit, toujours individuel, pouvait coordonner tous ces éléments. Donc la coordination libre dans le travail, qui va contre la division du travail, le taylorisme, etc. Il faut être maître de son travail, mais il faudrait être maître aussi de la vie sociale, de choses qui échappent à l'individu. Alors, entre le texte de 1934 et puis l'enracinement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les choses se sont énormément compliquées, finalement. Dans le texte de 1934, elle voyait la liberté, j'allais dire, comme elle voyait la liberté comme la compréhension du social. Dans l'enracinement, on verra que fait place à la notion de liberté fait place une autre notion, peut-être, qui est celle de lecture. Le réel s'est beaucoup complexifié et il faut pouvoir lire la réalité sur tous les plans. Et est-ce qu'un esprit individuel peut opérer cette lecture? Elle est peut-être, comment dire, elle est peut-être moins optimiste, si on peut employer cette expression qui ne lui convient pas, dans l'enracinement qu'elle ne l'était en 1934. Peut-être parce que l'histoire, justement, aussi est passée par là.
Mais est-ce qu'on peut dire qu'à la notion de liberté, finalement, elle va préférer aussi la notion de vérité? Car l'idée quand même de penser un régime politique, notamment dans l'enracinement, oui, c'est quand même l'idée aussi de produire un régime de vérité. Vous le disiez juste, oui, avant, il faut donner aux individus les moyens de penser par eux-mêmes, ce qui est une forme d'autonomie, de liberté, mais aussi en fait qu'ils soient les protégés des discours de propagande afin de leur donner les moyens de penser par eux-mêmes. Et donc de produire une vérité, d'être capable de déceler la vérité ou de produire, ouais, la vérité.
Ou de produire la vérité. Alors c'est vrai que dans l'enracinement, il y a la recherche d'une politique de la vérité, mais d'une politique de la vérité qui est moins une recherche de la production de la vérité qu'une recherche des moyens de protéger les individus de ce qui pourrait les empêcher d'accéder à cette vérité. En 1934, dans les conditions, les réflexions sur les causes de la liberté, quand elle pensait surtout la notion de travail, elle disait, bon, la division du travail crée une opacité entre l'individu et le réel. Le travailleur à l'usine ne maîtrise pas ce qu'il fait, ne comprend pas ce qu'il fait, donc il est coupé de la réalité. Et en fait, dans l'enracinement, le problème se pose à un niveau évidemment beaucoup plus complexe, c'est-à-dire comment faire pour que les individus dans une société complexe, dans une société qu'il est difficile de coordonner par un seul esprit, mais comment faire pour écarter de ces individus tout ce qui les empêchera de bien percevoir une réalité, c'est-à-dire de bien percevoir une réalité. Car entre vérité et réalité, chez elle, il n'y a pas de différence. Elle dit toute vérité est expérimentale, toute vérité est la vérité de quelque chose. Donc comment comprendre la vérité du rapport social, la vérité du rapport économique, la vérité de la relation politique? Et il faut pour cela, en effet, libérer les esprits pour qu'ils soient capables de contempler, si on peut dire, parce qu'elle aime bien ce terme, ou d'être attentif, c'est aussi un terme qu'elle aime beaucoup, le terme d'attention, d'être attentif à cette réalité. Donc c'est extrêmement exigeant. Comment, à l'échelle d'une société, libérer tous les individus pour qu'ils soient en mesure d'avoir un contact avec une vérité et d'exercer pleinement leur liberté, puisque sans liberté. Sans vérité, il n'y a que la fantaisie et des libertés illusoires ou le caprice.
Mais ce qui est intéressant dans toute l'œuvre de Simone Veil, c'est aussi cette idée que la politique est envisagée en termes d'éducation. C'est-à-dire que on y parle de modelage des âmes, et véritablement, c'est une action publique d'éducation, en fait, tournée vers l'individu pour qu'il ait les moyens de pouvoir agir par lui-même.
C'est ça. Tourner vers l'individu, en ce sens que la seule référence de Simone Veil, c'est toujours l'individu. Les collectifs ne pensent pas. Les collectifs ne font rien non plus. Ou alors, s'ils font quelque chose, c'est quelque chose de mal. On ne peut rien attendre des collectifs. Bon, c'est pour ça qu'elle est si sévère, par exemple, avec la liberté d'expression pour les journaux, pour les collectifs. On se dit, mais enfin, elle est pour une espèce de dictature. Oui, c'est difficile à comprendre, mais en même temps, elle dit, en même temps, la liberté complète d'expression doit être accordée aux individus, parce que seul l'individu pense. Donc, c'est lui qu'il faut viser. Et au fond, il faut faire le vide. Il faut faire silence. Elle dit souvent, qu'est-ce qui manque finalement pour que les individus puissent essayer, comme vous le dites, de penser par eux-mêmes ou de percevoir la vérité? Eh bien, il faut écarter tout ce qui les en empêche et qui fait du bruit. Donc c'est là qu'il y a aussi une conception spirituelle. Car dans une société, comment faire pour aménager autour des individus des zones de silence et des espaces de silence qui permettraient aux individus de se recueillir? Ça aussi, c'est proche de Rousseau. Donc la volonté générale ne peut s'exprimer dans l'individu qu'à partir du moment où il fait taire les passions collectives, etc. C'est très proche, sauf que c'est un niveau de spiritualité qui n'est pas exactement le même que chez Rousseau.
Simone a toujours eu la volonté éperdue de trouver le lien entre la perfection de Dieu et la souffrance des hommes, c'est-à-dire l'injustice du monde. Ce lien, pensait-elle, ne pouvait lui apparaître que dans un instant d'extrême souffrance, d'extrême sacrifice, et d'extrême sacrifice consenti dans une totale obscurité. Alors le jour où, déjà malade, gravement malade, elle a appris que cette joie, j'ose employer ce mot, cette joie métaphysique lui serait refusée, elle a décidé de mourir. Et elle est morte. Mais vous savez que elle considérait qu'un pays, qu'un peuple, c'était sa forme de patriotisme, peut détenir ce qu'elle appelait une perle de la vérité éternelle. En d'autres termes, qu'une communauté naturelle et consciente d'elle-même, qu'elle soit familiale ou nationale, était une institution légitime et forte. Elle fondait en particulier sa hantise de la décolonisation sur la reconnaissance du droit des peuples colonisés à une patrie.
Robert Chenavier, on vient d'entendre Maurice Schumann, ministre d'État, ami de Simone Veil, qui s'exprimait dans un hommage à Simone Veil en octobre 1968. Ce qui est très intéressant dans cet extrait, c'est qu'on y retrouve la notion de vérité, c'est-à-dire que toute l'œuvre de Simone Veil peut être vue à travers cette recherche de la vérité qui serait la compréhension du lien entre les hommes ici-bas et Dieu, la lumière surnaturelle. Et on entend aussi cette idée que ce lien, finalement, peut prendre forme au sein de la communauté. Alors, malgré ce qu'on vient de dire, à savoir qu'elle pense une éducation tournée vers l'individu, comment on peut articuler cette idée à la fois de vocation individuelle et en même temps de collectivité légitime dans l'œuvre de Simone Veil?
Oui, c'est ça, de collectivité légitime. C'est-à-dire qu'elle dit dans ses cahiers, la cité, ce n'est pas le social. Le social, c'est le gros animal de Platon pour elle. Bon, on est dans la caverne. La cité, ce serait ce milieu, mais qui est un ensemble de milieux. Ça nous ramènerait au premier texte, finalement, et à cette idée que l'enracinement, ça n'est pas un enracinement unique, les pieds dans la terre, ou simplement dans la patrie ou dans la nation, mais d'une multiplicité. Donc, quand Schumann dit, par exemple, qu'elle souhaitait que la libération des peuples colonisés, qu'ils aient une patrie, mais cette patrie, elle est faite de beaucoup de choses. Elle est faite d'une langue, elle est faite d'une histoire, elle est faite de religion, elle est faite de mythologie, elle est faite de légende, elle est faite de toute une série de choses qui constituent une culture et que la colonisation a fait exploser. Ce qui a fait perdre tout sens, effectivement, à la fois à la notion de patrie, évidemment, mais aussi à beaucoup d'autres choses. C'est cela qu'il faudrait retrouver. Donc, il faudrait il faudrait une cité, hein, et c'est en ce sens que nous avons à achever, comme elle dit, la création. C'est pas pour rien, n'est-ce pas? Car elle dit, c'est en quelque sorte comme si, en nous créant, en nous donnant l'existence, Dieu nous avait donné un libre arbitre dont nous nous servons mal. Et elle dit, je ne suis pas d'accord avec les existentialistes qui ont la tentation de l'existence. Au contraire, cette existence qui est une illusion, qui est une sorte de non-être, il faut la réduire et il faut au contraire essayer de dépasser une vie sociale qui serait un ensemble de petits moi simplement liés par des intérêts, par des échanges et par des droits. Et si on y arrive, on aura quelque chose comme une cité qui fera que même dans ce monde où il est en exil, l'homme se sentira chez lui. Comment faire pour que les individus se sentent chez eux dans une société? Ça ne peut pas être du social, ça ne peut pas être le gros animal, il faut que ça soit une cité.
Et donc pour que les hommes se sentent chez eux, elle tente de repenser plusieurs conditions. Donc il y a d'une part le travail, elle parle d'une spiritualité du travail, mais il y a aussi quand même cette idée qui reste, vous en avez parlé au début, c'est-à-dire que est-ce qu'on ne peut pas poser la question de penser l'œuvre de Simone Veil comme une forme d'antimodernisme finalement, car il s'agit quand même, quand elle fait sa contre-histoire dans l'enracinement, elle veut quand même déceler les moments, les étincelles dans le passé, et finalement on en vient à se demander si penser cette cité-là, en plus le terme de cité pour le coup est un terme antique, ouais, si finalement ouais. Elle n'est pas dans une forme d'archaïsme, si sa pensée n'est pas archaïque, en quoi en fait Simone Veil est encore actuelle pour nous?
Oui, en quoi est-ce qu'elle est actuelle? Elle n'aimait pas beaucoup la notion d'actualité, parce que l'actualité, c'est ce qui change tout le temps, c'est comme la mode. Et par conséquent, comment est-ce qu'on peut juger ou jauger une pensée à partir d'une actualité qui change tout le temps? Elle pense que ce qui compte, ce sont les invariants. Bon, par exemple, la notion de légitimité, elle est importante pour elle parce que c'est un invariant. C'est pas l'histoire simplement et dans ses avancées et puis dans ses stagnations et puis aussi dans le recul qui peut légitimer quoi que ce soit. En quoi est-ce que ça paraît rétrograde? Parce qu'elle fait référence au passé, mais elle dit bien que l'amour du passé n'a rien de réactionnaire. C'est-à-dire que ce qu'il faut retrouver dans le passé, c'est ces éléments vivants qui ont été oubliés. L'histoire a été écrite par les vainqueurs ont été oubliés. Donc au fond, quand elle va chercher dans l'hellénisme les traces du pythagorisme, ou chez les stoïciens, ou quand elle va chercher dans le comté de Toulouse au XIIe siècle une civilisation supérieure, c'est parce qu'elle dit tout cela, justement, a été tué par la grandeur romaine, a été tué par l'Église, a été tué par l'État. Donc nous avons une histoire qui est complètement truqué, qui est complètement obscurci. Comment peut-on retrouver des éléments de lumière, mais pas pour y revenir? En ce sens, l'enracinement, c'est pas la terre et les morts de Barrès, absolument pas, parce que la terre et les morts de Barrès, ça nous enferme dans un passé où tout était contenu, et finalement, la terre et les morts chez Barrès n'ouvrent pas sur un avenir. Tandis que chez Simone Veil, elle dit l'avenir en lui-même ne nous dit rien, évidemment, puisqu'on ne le connaît pas. Mais ce qu'on peut faire, c'est essayer de percevoir dans le passé des signes, des éléments vivants, des traces de quelque chose qui dépasse les péripéties de l'histoire, qui serait un invariant, qui serait quelque chose d'éternel.
Et finalement, juste pour finir, on a encore quelques secondes encore pour parler de Simone Veil. Est-ce qu'on pourrait dire que finalement toute son œuvre se résume avec le terme d'attention, justement, que ce soit au passé, à l'avenir, à l'ici-bas, au surnaturel, à toutes les couches, toutes les dimensions de la vie?
Oui, je crois que la notion d'attention est une notion clé, puisque ce qu'elle entend par attention, c'est faire le vide, c'est se rendre disponible. Et qu'est-ce qui nous rend si malheureux, selon elle, dans les sociétés modernes et contemporaines, et ça, elle le dit aussi bien dans les réflexions de 34 que dans l'enracinement, c'est cette absence de disponibilité. Le travailleur à la chaîne, ou le travailleur taylorisé, ou sur la chaîne fordiste, il n'a aucune disponibilité. Il ne peut pas être attentif à ce qu'il fait. Mais il n'est pas attentif non plus dans ses loisirs, parce que les loisirs sont faits de choses fantaisistes, qui nourrissent l'imagination, et qui n'apportent pas grand-chose à la vérité, et qui souvent, d'ailleurs, détournent de la réalité. Donc, comment faire, là aussi, pour rendre les hommes attentifs, en ce sens que l'attention leur permettrait de trouver cette disponibilité à tous les éléments et à tous les niveaux du réel. Maintenant, elle le dit à la fin d'un texte qui s'appelle « Conditions premières du travail non servile », elle dit évidemment « tous les hommes n'accéderont pas au plus haut niveau de l'attention ». Elle dit « le plus haut niveau de l'attention, c'est la prière ». Et la réalité la plus haute à laquelle on peut être attentif, c'est le surnaturel. Mais elle dit, au fond, tant pis si les hommes n'arrivent pas tous à cela, ils peuvent tous savoir que ça existe, et au fond, ça n'entame pas l'égalité des esprits. C'est en un sens, ce sens qu'elle peut parler, je crois, aussi bien. On a beaucoup parlé de surnaturel, mais je crois qu'elle peut parler à des gens qui sont athées ou qui sont agnostiques, aussi bien qu'à des gens qui sont chrétiens ou spirituels. Car la notion de spiritualité ne suppose aucune affiliation, selon elle.
Merci Robert Chenavier. De vous, on peut lire entre autres Simone Veil, L'attention au réel, paru aux éditions Michalon en 2009. Votre édition de La condition ouvrière de Simone Veil chez Gallimard, paru en 2002. Et surtout, surtout, votre édition des œuvres complètes dont on a parlé aujourd'hui, le volume 5, écrit de New York et de Londres, dont on retrouve notamment L'enracinement, dans lequel vous avez écrit un avant-propos très instructif, je le dis. Je signale aussi l'édition Quarto Gallimard, qui rassemble en un volume tous les textes de Simone Veil, ce qui est très pratique. Il est l'heure de retrouver Éric Eschiman pour sa chronique en partenariat avec le Nouvel Observateur. Bonjour Éric, vous nous parlez de critique aujourd'hui ?
C'est une critique, mais pas la critique de la raison pure, la critique de la raison nègre. C'est d'Achille Mbembe. Achille Mbembe est une figure très intéressante et très importante dans le paysage intellectuel contemporain. C'est, disons, la figure qui, pour les lecteurs français, peut être la porte d'entrée à ce qu'on appelle les Colonial Studies ou Post-Colonial Studies. C'est le champ d'études, principalement actif aux États-Unis, mais qui commence à exister en France et puis qui existe dans des tas d'autres pays dans le monde, notamment dans les pays émergents. C'est le champ d'études qui s'intéresse à ce qu'est la réalité du monde dans la mesure où le monde a connu, traversé l'épisode de la colonisation et qu'il en reste emprunt, il en reste structuré, il en reste fabriqué. On ne peut pas faire comme si la colonisation n'avait pas eu lieu. Donc, qu'est-ce que la colonisation fait au monde aujourd'hui ? Achille Mbembe est sociologue, professeur d'histoire, de sciences politiques. Il enseigne à la fois à Johannesburg et aux États-Unis, notamment à Duke University. Et donc, il appartient vraiment à cette Afrique d'aujourd'hui il est très francophone et connaît très très bien la culture française, et il appartient à cette Afrique d'aujourd'hui qui a établi le lien direct avec d'autres sphères que la France, que l'ancienne colonie. Et La critique de la raison nègre est un livre très important parce qu'au fond, c'est une espèce de pierre de fondement posée pour dire voilà, qu'est-ce que la colonisation et la fabrication du nègre, fabrication de la race noire, la biologisation de la race par la colonisation et le capitalisme au XIXe siècle, qu'est-ce que cela a fait au monde ? En quoi aujourd'hui cela continue de structurer le monde ? Et il conçoit, on a cherché chez Deleuze le terme de devenir, cette idée de devenir nègre du monde. Pourquoi le devenir nègre ? Parce que ce qui est arrivé au noir en tant qu'il a été utilisé comme esclave, transporté, exploité, il est arrivé au noir quelque chose qui est en fait ce qui nous arrive à tous aujourd'hui, c'est-à-dire le devenir marchandise, la transformation de l'être en marchandise dans cet univers de l'échange permanent des marchandises, l'échange permanent de soi à travers les rapports économiques et sociaux. Donc le noir, il nous dit, il est le premier des humains dont la chair, je le cite, fut faite chose et dont l'esprit fut fait marchandise. Voilà. Et il y a des très belles phrases comme ça. Et en même temps, ajoute-t-il, le noir est aussi celui qui est le symbole d'un désir conscient de vie, c'est-à-dire celui qui résiste à cette transformation de lui-même en marchandise et en objet.
Merci Éric. Les NCC touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve non pas demain, mais lundi, pour une semaine consacrée à une autre Simone, Simone de Beauvoir, à qui les Nouveaux Chemins de la Connaissance avaient consacré une série d'émissions en février dernier. « D'ici là, si vous ne pouvez pas vous passer de philosophie, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins où vous retrouverez toutes les informations bibliographiques et musicales du jour et surtout où vous pourrez télécharger et podcaster les émissions afin de les écouter quand vous voulez et où vous voulez. Rendez-vous également sur la page Facebook des Nouveaux Chemins où toute l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour. Enfin, si l'envie vous prend de découvrir la querelle entre Hume et Rousseau, écoutez le Gai Savoir de Raphaël Antoven ce dimanche à 16h. À 10h50, vous écoutez France Culture. C'est l'heure de retrouver Martin Kénéen pour Grand Amphi. Bonjour Martin.